Un tournant historique est à l'œuvre.
On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible.
Our world is at the crossroads.
Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants.
The eyes of all future generations are upon you.
40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent.
L'homme est en train de changer.
La première.
On vit peut-être un tournant là.
Déclic.
Le tournant.
Est-ce qu'on est déjà demain?
Arnaud Reusen.
C'est un mot que vous entendez revenir de plus en plus dans l'actualité.
Petit élément du tableau de Mendeleïev, l'hydrogène.
L'hydrogène vert, l'hydrogène décarboné.
Le
véritable potentiel réside dans l'hydrogène vert.
Hydrogène bleu, hydrogène vert, présenté comme élément déterminant de la stratégie européenne pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Alors, l'hydrogène va-t-il nous permettre de décarboner nos industries, nos transports, tout en restant performants sur le plan économique? Est-ce le nouveau Graal de la transition? On va prendre 40 minutes pour y voir clair.
Dear colleagues, good morning. Can I ask you to take your seats, please?
Nous sommes le mercredi 14 septembre, dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Comme chaque année, la présidente de la Commission européenne vient prononcer son discours sur l'état de l'Union, présenter les projets de la Commission pour l'année qui vient.
It is my pleasure to give the floor to the president of the European Commission to deliver her 2022 State of the European Union address. Dear Ursula, the floor is yours.
Sur près d'une heure, Ursula von der Leyen développe sa vision d'une Europe qui doit faire face à l'invasion russe en Ukraine, mais aussi aux défis climatiques. Et ce jour-là, en français dans le texte, elle fait part aux députés de cette conviction.
L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe. Nous devons passer du marché de niche au marché de masse pour l'hydrogène. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que nous allons créer une nouvelle Banque européenne de l'hydrogène. Elle aidera à garantir l'achat d'hydrogène. Elle pourra investir 3 milliards d'euros pour aider à construire le futur marché de l'hydrogène. Et c'est ainsi que nous allons bâtir l'économie du futur. C'est cela notre pacte vert pour l'Europe.
L'hydrogène, donc, comme socle de l'économie européenne du futur. Rien que ça. Et ce, alors que la filière de développement de l'hydrogène vert est encore assez embryonnaire aujourd'hui. Ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur ce fameux atome, sur ses promesses et sur ses limites. Première étape. Le pôle agrobiotech de l'Université de Liège, situé, c'est un peu contre-intuitif, il faut bien le dire, à Jambloux, dans les locaux de l'ancienne abbaye. J'ai rendez-vous là-bas avec Aurore Richel, elle est professeure de chimie spécialisée dans les ressources renouvelables. Elle m'emmène directement au sous-sol du bâtiment, là où se trouve un réacteur à hydrogène.
C'est parce que c'est assez dangereux de manipuler parfois en présence d'hydrogène.
Alors j'en profite pour lui poser d'abord une question toute simple, mais essentielle. C'est quoi, au fond, l'hydrogène?
Alors, l'hydrogène, en fait, on doit même plutôt dire le dihydrogène. Donc, c'est une toute petite molécule qui est composée de deux atomes d'hydrogène. Et c'est la plus petite molécule chimique qui soit. Donc, c'est vraiment une molécule qui est très, très légère. Donc, elle est beaucoup plus légère que l'air. Et c'est une molécule qui se présente dans des conditions normales de température et de pression sous la forme d'un gaz. Et donc, c'est un gaz qu'on a découvert il y a plusieurs siècles. Les scientifiques l'ont même appelé hydrogène parce qu'en fait, ce gaz, quand il se combine avec l'oxygène qui est présent dans l'air, il génère de l'eau. Et donc, le nom hydrogène vient de là, hydrogène qui génère de l'eau. Et donc, c'est une molécule qu'on a découverte il y a très, très longtemps et qui, pour le moment, est en train d'être remise sur le devant de la scène parce qu'on prête à l'hydrogène des propriétés intéressantes, notamment dans les plans de décarbonation pour son pouvoir énergétique. Mmh.
Et on dit souvent, on se souvient d'ailleurs à l'école, que c'est le premier élément du tableau de Mendeleïev, que c'est l'élément qui est le plus présent dans notre univers, c'est juste ?
Alors l'hydrogène, il est bien présent, donc l'atome d'hydrogène est bien présent dans tout l'univers, c'est même un des atomes qui est le plus abondant dans l'univers. Sur la Terre, l'hydrogène est aussi présent sous forme d'atomes, et ces atomes, ils rentrent dans la composition de plein de choses, de l'eau, donc toute l'eau qui nous entoure, les océans, les mers, les cours d'eau, il y a de l'hydrogène dedans. Il y en a aussi dans les êtres vivants, il y a de l'hydrogène en nous, des atomes d'hydrogène, il y en a dans le corps humain, il y en a dans les plantes aussi, dans la biomasse, c'est-à-dire dans les arbres, dans les déchets organiques parfois. Et puis il y en a aussi, sans le savoir, de l'hydrogène dans les ressources fossiles, qui sont un puissant réservoir d'atomes d'hydrogène. Donc il y en a dans le pétrole, le gaz naturel, il y en a même en moindre portion dans le charbon, par exemple.
Mais le problème qu'on a avec l'hydrogène, c'est qu'on ne le trouve jamais pur. Donc si on veut avoir de l'hydrogène, d'une manière ou d'une autre, il faut le séparer des autres atomes auxquels il est attaché.
Oui, alors la molécule d'hydrogène, donc H2, elle existe sur Terre, mais dans des gisements en toute petite quantité. Donc le grand challenge de l'hydrogène, de la molécule d'hydrogène, c'est qu'il faut la synthétiser au départ d'une matière qui contient des atomes d'hydrogène. Alors on peut le synthétiser à partir de plantes, d'arbres, de déchets végétaux. On peut le synthétiser aussi au départ d'autres choses, et ces autres choses sont les ressources fossiles. Donc l'hydrogène qui est aujourd'hui sur le marché, la molécule d'hydrogène, elle est produite surtout à partir de gaz naturel. Donc plus de 70% de l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui vient du gaz naturel qui a été converti, qui a été traité pour en isoler la molécule d'hydrogène. Et puis 20% environ de l'hydrogène que l'on retrouve vient aussi du charbon, qui reste une matière intéressante pour produire la molécule d'hydrogène. Et puis il y a 2%, même un peu plus, un peu moins, ça dépend des années, qui provient alors de l'eau, qui reste aussi une des matières les plus intéressantes pour produire la molécule d'hydrogène.
Oups, voilà un premier élément qui peut surprendre. Notre hydrogène, présenté souvent dans les débats du moment comme l'une des clés pour une énergie plus verte, est en fait produit dans l'écrasante majorité des cas aujourd'hui, au départ d'énergie fossiles. Je reprends les chiffres d'Aurore Richel. Plus de 90% de l'hydrogène consommé aujourd'hui est synthétisé au départ de gaz naturel et de charbon. Et ce n'est que dans 2% des cas que l'on produit cet hydrogène au départ d'eau. Donc, aujourd'hui, l'hydrogène, dans l'essentiel des utilisations, est tout sauf un carburant vert. Mais ne brûlons pas les étapes. On est au sous-sol de la faculté agrobiothèque de Jean Blou et Aurore Richel me présente son réacteur à hydrogène de laboratoire.
Alors, on charge ici le réacteur. Donc le réacteur, il pèse très 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 lourd, si vous voulez le sentir.
Ah oui, c'est plusieurs kilos alors que c'est pas très grand.
C'est plusieurs kilos, c'est la taille d'une tasse de café. On voit que la paroi, elle fait au moins presque 2 cm d'épaisseur. Et donc ça permet de mettre quelques milligrammes à peine de matière. On va mettre ça dans le réacteur, on va le peser et puis on va venir le mettre encore dans une paroi de protection. Donc la paroi de protection, elle doit faire 25-30 cm de diamètre, et elle aussi, elle est épaisse de 3 cm ici sur les parois. Et donc ça permet, s'il y a un risque, de contenir le risque à l'intérieur du réacteur, puisque, on le sait, l'hydrogène, parfois, peut provoquer des risques d'explosion. Donc une fois que le réacteur est chargé, on va faire descendre ici la sonde de température qui va permettre alors de monter progressivement le réacteur à la température désirée. Et puis la réaction va avoir lieu au sein du réacteur. Il va y avoir une série de gaz qui vont être formés. Et donc on peut lire ici la pression en gaz qui va commencer à se former. Donc ceci, ça mesure la quantité des gaz. Et ici, on va pouvoir analyser par les valves de sortie la nature des gaz qui se forment et leur quantité. Donc à tout instant, on peut dire, voilà, j'ai X pression de gaz qui se sont formés dans mon réacteur et mon gaz contient beaucoup d'hydrogène, un peu moins d'hydrogène, etc. Et ça permet de rationaliser pour avoir des plans d'expérience qui nous donnent le maximum d'hydrogène dans les conditions qu'on aura configurées comme étant les plus optimales.
Mais donc ici, on a un réacteur de laboratoire universitaire qui est profilé d'une certaine manière aussi justement pour pouvoir faire différentes expériences. Dans la réalité aujourd'hui de la production industrielle d'hydrogène, le plus souvent, c'est un processus relativement simple, même si quand même dangereux, enfin qu'il faut bien encadrer, mais ça se fait au départ de ressources fossiles la plupart du temps, en fait, au Richel.
Oui, c'est ça. Donc il y a plus de 70% de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui, ben, qui vient du gaz naturel, que l'on convertit à très haute température dans un procédé qu'on appelle du vaporéformage, c'est-à-dire qu'on traite du méthane, donc du gaz naturel, avec de l'eau, et l'hydrogène s'accompagne alors, cette fois-là, de la cogénération d'une autre molécule qui est problématique, qui est le dioxyde de carbone.
Le CO2, donc, pour l'appeler autrement.
C'est le fameux CO2 qui est un gros problème. Alors le problème est exactement le même quand on produit de l'hydrogène à partir de charbon. Il y a aussi l'émission dioxyde de carbone. Sur une année, on considère que les émissions dioxyde de carbone associées à la production d'hydrogène s'élèvent à plus de 800 millions de tonnes. Donc c'est un volume considérable. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger, qui n'est pas anecdotique aujourd'hui.
Donc, quand on parle, et ça va être un peu le cœur de cet épisode ici, d'hydrogène vert, par exemple, pour demain, évidemment, c'est pas de ça dont on parle. On ne parle pas de cet hydrogène qui aujourd'hui est produit au départ de charbon ou de gaz naturel, mais de l'idée d'en produire autrement.
Alors c'est ça, alors même si ce mot ne laisse pas sous-entendre, parce que vert, on a toujours l'impression que ça fait référence au végétal, etc., l'hydrogène vert, c'est un hydrogène qui serait produit à partir d'eau. Donc ce que l'on va faire, c'est éclater la molécule d'eau en deux autres molécules, donc de l'hydrogène d'une part, qui est la molécule qui nous intéresse, et cette fois-ci, ça s'accompagne de la génération d'oxygène, qui n'est plus alors du dioxyde de carbone. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'hydrogène vert. C'est parce qu'il est produit à partir d'eau et non plus à partir de ressources fossiles, et parce que le bonus, c'est que cet hydrogène serait produit aussi à partir de ressources renouvelables, donc les ressources énergétiques qui ont été mises en œuvre pour générer cet hydrogène à partir d'eau sont en théorie des énergies renouvelables, alors des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, mais c'est ça l'hydrogène vert, ou la philosophie de l'hydrogène vert, c'est de le produire complètement dissocié des énergies fossiles.
Schématisons un peu en utilisant les codes couleurs communément admis. L'hydrogène le plus utilisé aujourd'hui est ce qu'on appelle l'hydrogène gris, synthétisé au départ de gaz et de charbon, et dont la production émet plus de 800 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est plus, tenez-vous bien, que l'ensemble des émissions du secteur aérien. À côté de cela, on parle de plus en plus de créer une filière d'hydrogène vert. Là, c'est de l'hydrogène qu'on synthétiserait au départ de l'eau, grâce à de l'électricité, dans ce qu'on appelle un électrolyseur, qui serait du coup alimenté par des sources d'énergie renouvelables, des champs d'éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, afin d'avoir un carburant propre et produit proprement. Hydrogène vert, donc, par opposition à l'hydrogène gris. Mais vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de l'hydrogène bleu. De quoi s'agit-il ? J'ai évidemment aussi posé la question à Aurore Richel.
Alors, l'hydrogène bleu, c'est un hydrogène qui a été produit à partir de ressources fossiles, donc gaz naturel par exemple. Mais cette fois-ci, comme on sait que le procédé s'accompagne d'émissions dioxyde de carbone, eh bien l'hydrogène bleu, en fait, c'est un hydrogène qui est obtenu avec capture du CO2 qui aurait été généré pendant le processus. Donc c'est ça, en fait, de l'hydrogène bleu. Ça n'a pas une connotation qui fait penser à l'eau ni rien. En fait, l'hydrogène bleu, c'est un hydrogène qui a été produit avec capture de CO2.
Donc l'hydrogène bleu, c'est comme l'hydrogène gris, mais au lieu de laisser le CO2 s'évader dans l'atmosphère, on va le capturer et soit aller le réinjecter dans le sous-sol, ou alors essayer d'en faire des matières plastiques, par exemple, pour piéger le carbone et qu'il ne puisse pas aller accentuer l'effet de serre en s'échappant dans l'atmosphère. À côté de cela, notre hydrogène vert a donc des allures, lui, de solution miracle. Une filière propre de bout en bout, pas de CO2 à récupérer, mais il y a un hic, et un fameux. Cet hydrogène vertueux n'est pas du tout facile à produire. Le processus de séparation des atomes d'hydrogène et d'oxygène consomme beaucoup, beaucoup d'énergie.
Il y a une règle en chimie qui dit que plus une molécule est stable, et c'est le cas de l'eau, plus il faut de l'énergie pour l'éclater en molécules qui pourraient être valorisables, ici en l'occurrence en hydrogène. Donc tout le défi de la recherche, c'est de mettre en place des nouveaux systèmes qui vont permettre d'économiser l'énergie sur l'ensemble du procédé de production, et ça passe notamment par le développement de nouveaux matériaux, de nouvelles électrodes qui vont permettre, alors quand on va faire passer du courant dans cette solution qui contient de l'eau, de l'éclater de manière correcte et efficace en hydrogène et en oxygène.
Voilà donc une première grosse ombre au tableau de cet hydrogène vert. Dans l'état actuel de la recherche, le produire est extrêmement coûteux en énergie. Il faut plus d'énergie pour synthétiser l'hydrogène que ce que l'hydrogène pourra rendre comme énergie une fois synthétisé. Mais les chercheurs considèrent que le jeu en vaut quand même la chandelle, ne serait-ce que pour remplacer demain tout l'hydrogène gris qu'on utilise déjà aujourd'hui, et à vrai dire, on en utilise énormément.
L'hydrogène, on l'utilise dans les raffineries pétrolières pour former nos carburants. On l'utilise aussi pour produire du méthanol, qui est un solvant pour le secteur de la chimie. Et puis on l'utilise aussi, surtout pour faire autre chose, c'est pour faire de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est la molécule de base pour faire tous les engrais azotés qui sont utiles pour amender les sols, etc. Et donc l'hydrogène n'est pas seulement utilisé pour ses performances énergétiques, et c'est là où il faut insister dans le message. L'hydrogène est aussi utilisé pour ses propriétés intrinsèques à jouer le rôle de réactif dans certaines fabrications industrielles, qui sont des fabrications industrielles qui restent majeures pour le secteur chimique belge ou même international.
Je note donc trois points essentiels dans le carnet du tournant. Premièrement, l'hydrogène a des propriétés très utiles, mais est assez complexe à produire. Aujourd'hui, on le synthétise surtout au départ d'énergie fossile, ce qui émet énormément de CO2. Si demain, on espère pouvoir le synthétiser de plus en plus au départ d'eau, cela va nous coûter par contre beaucoup d'énergie. Deuxièmement, avant de rêver d'utiliser l'hydrogène vert comme substitut aux carburants fossiles, il va d'abord falloir remplacer tout l'hydrogène gris qui sert déjà aujourd'hui dans l'industrie. Et l'on parle là de quantités énormes. Et puis enfin, troisièmement, si sur papier l'idée de réaliser l'électrolyse de l'eau avec des énergies renouvelables pour une filière 100% propre est très séduisante, dans les faits, la technologie n'est pas encore tout à fait mature, et en Europe, on est encore au stade expérimental. Les projets à grande échelle sont toujours dans les cartons. Qu'à cela ne tienne, certains acteurs belges fondent beaucoup d'espoir dans le développement de l'hydrogène vert. C'est le cas de l'entreprise John Cockerill à Seraing, une société héritière du passé sidérurgique wallon et qui aujourd'hui, en pleine croissance, mise sur le renouvelable. Elle a choisi dès 2018 de mettre un pied dans la filière hydrogène. Au cœur de Seraing, dans un bâtiment en forme de grand cube de béton, j'ai la chance de voir un premier électrolyseur industriel que des ouvriers de John Cockerill sont en train d'installer sur un banc d'essai. À côté d'un dispositif impressionnant destiné à l'approvisionnement électrique, trône l'électrolyseur. Il ressemble à un immense cylindre métallique de plusieurs mètres de long, couché et attaché au sol. Un peu comme une juxtaposition de crêpes métalliques que l'on aurait accolées et enserrées les unes contre les autres.
Et ça, il faut le redresser, il faut le lisser. Donc, on a quatre redresseurs. Venez voir.
C'est à l'intérieur de ce cylindre que va se faire la réaction chimique par électrolyse pour séparer l'oxygène de l'hydrogène.
Le process, c'est que, au départ, le liquide arrive par le bas, sort par le haut, et il est déjà séparé intérieurement. Il y a côté oxygène, au côté hydrogène. D'accord ? Ensuite, ce liquide, il arrive ici. Et je dis, là, je vais recevoir un énorme séparateur de 20 tonnes qui monte jusqu'en haut, en deux pièces. Et lui, en fin de compte,
il finit de séparer la partie liquide et gaz. D'accord ? Donc la partie liquide, ce sont des résidus. Ça, c'est ce qu'on appelle le lye ou le carwash. C'est très acide, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a une rétention. Et vous avez des bacs en double enveloppe, en PEHD. Voilà. Et la partie gaz, pour ce projet, ça va aux petits oiseaux. Parce que le but, en fin de compte, c'est de faire fonctionner l'électrolyseur pour voir la production. Voilà.
Okay. Pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne, direction les bureaux de John Cockerill. Situé dans un bâtiment très moderne, au style aérien, couvert d'un bardage métallique ajouré et doré, qui vient comme se greffer sur l'ancien château de John Cockerill, père de la sidérurgie wallonne. Comme un pont architectural entre le passé industriel liégeois et l'une de ses voies d'avenir possibles.
Le château a en fait été cédé à John Cockerill il y a un peu plus de 200 ans par Guillaume d'Orange de Hollande.
Je retrouve là-bas Raphaël Thilault, responsable de tout le pôle énergie renouvelable et hydrogène pour John Cockerill, le groupe liégeois qui emploie aujourd'hui quelques 5500 personnes dans le monde.
Raphaël Thilault, enchanté.
Merci de me recevoir.
Avec plaisir. Merci de venir chez nous.
Et je demande à Raphaël Thilault de m'expliquer, au calme, comment fonctionne concrètement l'électrolyseur actuellement installé sur le banc de test.
Donc un électrolyseur est un équipement qui sépare les molécules d'eau en hydrogène d'un côté, oxygène de l'autre. Donc un électrolyseur essentiellement est composé de quelques équipements clés. L'alimentation en électricité, pour transformer le courant en courant continu, faire varier la puissance. Le cœur de l'électrolyseur, c'est ce qu'on appelle le stack. Alors le stack est un gros équipement d'une cinquantaine de tonnes, dans la version de John Cockerill, qui est un empilement de cellules. Et chacune des cellules est composée d'une cathode et d'une anode, et c'est là qu'a lieu l'électrolyse de l'eau. Donc c'est entre ces cathodes et anodes qu'on va aller casser la molécule d'eau en hydrogène et oxygène.
Pour schématiser, on ne fait pas ça dans une espèce de grand réservoir, c'est plein de petits réservoirs les uns à côté des autres où on va faire l'opération.
Donc effectivement, un stack de 50 tonnes, c'est environ 300 cellules. Et dans chacune de ces cellules, avec son anode et sa cathode, on va produire un petit volume d'hydrogène et d'oxygène. Et c'est la somme de ces petits volumes qui peut faire des volumes plus importants. À terme, l'objectif, c'est de faire des grosses usines d'hydrogène, donc d'avoir pas un seul stack, mais des dizaines, voire des centaines de stacks les uns à côté des autres, qui pourront produire des volumes très importants d'hydrogène.
Et Raphaël Thilault me montre d'ailleurs, sur son ordinateur, le plan en 3D d'une potentielle usine de production d'hydrogène à plus grande échelle.
Vous avez ici en fait une usine qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... fois 5 mégawatts, donc c'est 50 mégawatts.
Ben à 50 mégawatts, ça veut dire qu'il faudrait 20 usines comme ça pour l'équivalent d'un réacteur nucléaire, par exemple.
C'est correct. Alors ça peut paraître énorme, mais en fait, aujourd'hui, on soumet déjà des offres sur des projets de plusieurs milliers de mégawatts. Alors, c'est pas en Belgique, c'est dans des pays où l'énergie éolienne et solaire sont abondantes, mais ça n'est plus de la science-fiction.
Ben, ça veut dire que ça va être des énormes usines.
Des énormes usines qui vont sans doute exporter l'hydrogène, le transformer a priori en ammoniac. Et l'ammoniac est chargé sur des navires et amené en Europe.
On voit tout de suite l'un des enjeux du développement de ce genre d'usine de production d'hydrogène. Il faut d'abord beaucoup de place. Et puis surtout, une connexion avec des moyens de production d'énergie renouvelable. Car on l'a déjà dit, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'électricité pour casser les molécules d'eau et synthétiser l'hydrogène.
L'ordre de grandeur, c'est 70%. Si vous mettez 100 unités d'énergie électrique à l'entrée d'un électrolyseur, vous aurez 70 unités d'énergie sous forme d'hydrogène à la sortie. Donc on fait tout pour améliorer ce rendement. Parce qu'au final, si vous voulez, le prix du kilo d'hydrogène, c'est essentiellement le prix de l'électricité qu'on met en entrée. Le prix du kilo d'hydrogène, il est composé, on va dire, à trois quarts du prix de l'électricité que vous avez en entrée. Donc, si demain on se projette dans un monde avec de l'hydrogène pour l'industrie, pour la mobilité, la question qu'on nous pose tout le temps, c'est quel sera le prix de l'hydrogène ? Premier élément de réponse, c'est quel sera le prix de l'électricité ?
On touche là à quelque chose de très important. Utiliser de l'électricité pour produire de l'hydrogène, c'est en fait perdre de l'énergie. Il serait beaucoup plus rentable d'utiliser l'électricité en direct. Mais on l'a déjà dit aussi, le gros avantage de l'hydrogène, c'est que contrairement à l'électricité, il est stockable, transportable, et qu'il a toute une série d'utilisations propres dont l'industrie pourrait difficilement se passer. Raison pour laquelle on estime aujourd'hui envisageable de dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour produire de l'hydrogène vert. Mais au fond, ça coûte combien, tiens, un électrolyseur ? Je risque cette question auprès de Raphaël Thilot, qui n'a visiblement pas envie d'en dire trop sur le sujet.
Alors, un électrolyseur, le produit entre guillemets standard sur lequel on travaille pour l'Europe est un électrolyseur qui fera 5 mégawatts et ça coûtera quelques millions d'euros. Alors, ça va dépendre du périmètre précis demandé par le client. Mais quelques millions d'euros.
Quand même, plusieurs millions d'euros pour un électrolyseur, et il s'agit d'en mettre des dizaines, voire des centaines en série. Qui plus est, en les connectant à des énergies renouvelables, dont on sait qu'elles sont intermittentes. Il n'y a pas du soleil ou du vent disponible tout le temps. Est-ce vraiment possible, du coup, pour un industriel aujourd'hui, de rentabiliser un tel investissement ?
Alors, rentabiliser, c'est une bonne question. Alors, première chose, que recherchent nos clients qui achètent des électrolyseurs ? Est-ce qu'ils cherchent à rentabiliser d'un point de vue économique ? L'objectif peut être de décarboner, de verdir. Soit parce que certains sont obligés de réduire leurs émissions en CO2, soit parce que pour eux, l'enjeu en termes d'image devient tel qu'il faut réduire les émissions de CO2. L'objectif peut être de gagner en indépendance énergétique. C'est un thème dont on parle de plus en plus. Les événements ukrainiens nous ont tous fait prendre conscience de ce que ça veut dire, l'indépendance énergétique. Quand demain, en Europe, on pourra produire de l'hydrogène vert grâce à nos sources européennes d'électricité renouvelable éolienne ou solaire produite sur le continent, l'Europe produira son combustible, aura du combustible pour son industrie lourde, produit en Europe, pour des camions. Tout ça sera produit en Europe, on ne sera plus dépendant de sources lointaines, de pétrole, de charbon et autres. Donc on voit bien que la question de la rentabilité, elle est importante, mais c'est pas le seul objectif des gens qui font le pari de l'hydrogène vert. Alors sur la rentabilité, au final, il faut regarder la compétitivité de l'hydrogène vert qui sera produit par rapport aux alternatives. Si on a un acteur industriel, on va devoir comparer le prix de l'hydrogène au prix du gaz naturel, essentiellement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec les prix du moment, en septembre 2022, de gaz naturel, l'hydrogène vert peut paraître intéressant d'un point de vue économique.
Vous aurez compris, entre les lignes. Sans soutien des pouvoirs publics, sans planification des objectifs de décarbonation ou d'indépendance énergétique, difficile de faire exister à brève échéance une filière d'hydrogène vert. C'est pour cela que la Commission européenne a décidé de mettre sur pied une banque de l'hydrogène et de définir un cap clair à l'horizon 2030. Un cadre dans lequel on croit, visiblement, chez John Cockerill, avec une certaine longueur d'avance d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, un électrolyseur sur trois dans le monde est vendu par le groupe liégeois. Pour conclure cet épisode, j'avais envie de resituer tout ça dans un schéma plus large. J'ai donc pris rendez-vous avec Francesco Contino, professeur de thermodynamique à l'UC Louvain et spécialiste de la transition énergétique. Je le retrouve dans son bureau à Louvain-la-Neuve, accompagné du son mélodieux d'un démontage d'échafaudage sur le bâtiment d'en face qui vient tout juste d'être réisolé. Ça ne s'invente pas. Je voudrais comprendre, avec Francesco Contino, où le maillon hydrogène pourrait venir se placer dans notre chaîne énergétique du futur. Et je commence par une question que vous devez peut-être vous poser vous aussi. Dans quel cas est-ce que l'hydrogène est essentiel au point que l'on estime utile de consommer 100 unités d'énergie électrique pour les convertir en 70 unités d'énergie hydrogène, en perdant donc 30% de rendement au passage. Pour le dire autrement, dans quel cas ne peut-on absolument pas se passer de l'hydrogène ?
Alors, il y a des raisons qui sont purement techniques. Il y a plusieurs industries qui n'ont pas d'alternative pour rendre leur fonctionnement renouvelable, vert, etc. C'est essentiellement les industries où on doit atteindre des hautes températures. Fabriquer de l'acier, du verre, est impossible si on ne monte pas à une température qui est suffisante pour le principe même du process industriel. Et pour atteindre cette température, on ne sait pas le faire simplement avec l'électricité. L'électricité peut nous amener jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, au-delà de ce point, la résistance des matériaux est telle qu'on n'arrive pas à aller plus haut. Et donc l'hydrogène vient ici en appoint pour augmenter cette température. Donc pour ces industries, il n'y a pas d'alternative pour l'instant qu'on peut envisager. Il y a par ailleurs des industries comme l'ammoniac, la production d'ammoniac qui mène après aux engrais, où c'est la matière première, c'est une brique élémentaire pour le fabriquer. Donc à nouveau, ici, il n'y a pas d'échappatoire, on doit utiliser de l'hydrogène tant qu'on veut encore utiliser de l'engrais. Et c'est la même chose pour l'acier et le verre, si on ne veut plus les utiliser, ok, là, on n'a plus besoin d'hydrogène. Et puis, il y a plusieurs applications où, finalement, ce sont des besoins qu'on a pour l'instant, il faudra avoir dans le futur, c'est essentiellement dans le transport maritime, transport par avion, et d'une certaine manière aussi transport long courrier type camion. Et là, se poser la question, quel sera le vecteur énergétique à ce moment-là? Et a priori, pour le futur, moyen terme, long terme, on n'envisage aussi pas beaucoup d'autres solutions que des vecteurs qui dérivent de l'hydrogène. C'est vraiment l'idée que l'hydrogène est une brique élémentaire qui va être utilisée pour former d'autres choses.
Et pour bien comprendre cet enjeu de brique élémentaire, comprendre aussi pourquoi dans certains cas, il ne sera pas possible de remplacer du carburant directement par de l'électricité, arrêtons-nous par exemple sur le cas de l'avion et du bateau.
Là, les densités d'énergie nécessaires sont telles qu'en fait, si vous devez remplir votre bateau avec suffisamment de batterie pour qu'il puisse faire la route qu'il doit faire, là c'est un problème de nombre de kilomètres à parcourir qui est un problème, ben, vous n'aurez plus de place pour mettre autre chose. L'avion, c'est un petit peu différent, c'est le fait que il doit se porter lui-même aussi. Il n'y a pas l'eau pour le faire flotter comme un bateau. Et il faut savoir qu'au décollage, un avion typique, c'est 40% de son poids qui est du carburant. Si vous devez le transformer pour faire de l'électricité, ce sera 95%, voire plus de son poids qui sera son carburant. Et là, ici, les batteries. Et donc le problème, c'est qu'est-ce que vous transportez d'autre? Donc pour ces applications-là de transport très spécifiques, effectivement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et donc on devra utiliser des dérivés de l'hydrogène.
Autre point fort déjà évoqué de l'hydrogène, son côté transportable, même sur de très longues distances, ce qui est impossible avec l'électricité. De quoi rendre envisageable, par exemple, d'amener chez nous de l'énergie produite au départ de panneaux photovoltaïques installés dans des pays baignés de soleil, même très loin de nous, par exemple en Afrique.
C'est un des gros avantages de l'hydrogène par rapport à l'électricité qui est beaucoup plus difficile à transporter sur des longues distances. Il y avait, je me souviens quand j'étais encore en master, ce projet un petit peu fou de produire l'électricité dans le nord de l'Afrique et de l'amener après avec des lignes haute tension en courant continu très spécifiques jusque l'Europe. Ça n'a jamais vraiment pris pour différentes raisons technologiques et de coûts. Ben, on en revient un peu à faire ça, mais avec le vecteur hydrogène à la place.
Mais attention, Francesco Contino s'empresse d'ajouter une remarque essentielle. Pas question d'imaginer pour autant remplacer tout le gaz et tout le pétrole que nous importons par de l'hydrogène produit ailleurs, au départ de champs solaires.
Les ordres de grandeur sont tels, le nombre de térawattheures à remplacer est tellement important qu'en fait, on n'imagine même pas la taille de ces justement champs solaires qu'il faudrait pour pouvoir compenser. C'est inimaginable, c'est des milliers de térawattheures, c'est des centaines de millions de tonnes d'hydrogène qu'il faudrait pour remplacer, déplacer notre consommation actuelle. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a souvent ce couple entre l'électricité et l'hydrogène. Il ne faut pas voir qu'un va être mieux que l'autre. L'électricité a cet énorme avantage que, ben, on peut l'utiliser directement. Si on produit l'hydrogène, mais on va perdre instantanément une partie de l'énergie qu'on a produite pour former l'hydrogène. Dans le meilleur des cas, on va peut-être atteindre 70% de rendement. Ça veut dire qu'on perd automatiquement 30% pour produire l'hydrogène. Et après, il faut encore pouvoir le stocker si on veut l'utiliser plus tard. Donc on perd encore une fois, on le transforme en autre chose. Et finalement, c'est un manque à gagner. On a déjà du mal à produire cette énergie renouvelable. Si en plus on en perd des morceaux, le problème est mal posé. Donc c'est clair, on en a besoin, mais il ne faut pas essayer de remplacer tous nos besoins avec l'hydrogène. Sinon, on n'y arrivera pas.
Et pour donner un ordre de grandeur, Francesco Contino a réalisé pour moi quelques petits calculs afin de démontrer en chiffres à quel point l'idée de remplacer toute notre énergie fossile par de l'hydrogène vert est tout simplement impensable.
Si on regarde, la plupart des vecteurs énergétiques qu'on utilise sont pour l'instant essentiellement du fossile. Si on fait la somme de tous ces vecteurs énergétiques, ces sources d'énergie primaires fossiles, on arrive à plus de 10 000 TWh, 12-13 000 TWh. Si on regarde ce qu'on espère produire avec l'hydrogène à l'échéance 2030, on sera aux environs de 300 TWh. Ça, c'est vraiment dans un plan ambitieux. Et donc, ça représente 2% de ce qu'on consomme actuellement sous forme fossile. Et donc, ça représente une quantité énorme pour ceux qui voient le système sous forme d'hydrogène et voient les complexités pour le faire. Mais en l'occurrence, quand on voit l'entièreté du problème et l'entièreté de la masse d'énergie fossile qu'on utilise, finalement, 2%, c'est pas grand-chose.
Donc, même en imaginant que technologiquement, on arrive à rencontrer tous nos paris à l'horizon 2030, si tout fonctionne comme on l'espère, que les industriels suivent, on ne serait, en tout cas à cet horizon-là, qu'à 2% de ce qu'on consomme aujourd'hui en énergie fossile qui pourrait être produit en hydrogène.
C'est ça, mais je vais reprendre quand même les mots de Fatih Birol, qui est le responsable de l'Agence internationale de l'énergie. Il disait, juste avant la crise ukrainienne, justement, que l'hydrogène, la course de l'hydrogène, c'est un marathon. Il ne faut pas voir l'arrivée en 2030. Il ne faut pas se dire qu'on va gagner un marathon en étant les premiers aux 5 km. Il faut vraiment le voir sur la durée. Et c'est sûr que le 2030 sera une étape. Ces 2% ne seront qu'une étape. C'est un petit peu la même chose avec l'énergie renouvelable. À un moment donné, on est passé aussi par 2% et on a continué à augmenter. Ça va être la même chose avec l'hydrogène. Ce n'est pas parce qu'on va avoir, à l'échéance 2030, que 2% qu'il ne faudra pas continuer. Et il faut plutôt voir ça comme un objectif ambitieux. Espérons d'arriver à 2%, parce qu'alors on sera bien placé dans ce marathon pour arriver jusqu'à une transition énergétique.
Bon, alors, c'est quoi finalement la place de l'hydrogène dans la transition ? Un rôle secondaire, un rôle clé mais à long terme? Pour Francesco Contino, c'est surtout une des réponses parmi beaucoup d'autres leviers à activer à la fois.
Si on pense en termes de priorité, la première chose à faire selon moi, et là il y a aussi débat, c'est de diminuer notre demande en énergie, c'est l'aspect sobriété. Puis le deuxième maillon, c'est de faire mieux. Dans la façon de faire mieux, c'est électrifier. Par exemple, électrifier la chaleur, électrifier la mobilité, ça permet de faire mieux. Et le troisième maillon, c'est de produire de l'énergie renouvelable en quantité. Et c'est dans ce troisième maillon, finalement, qu'intervient également l'hydrogène, en plus de ce qu'on a dit sur l'industrie et sur certains transports, c'est que l'hydrogène va permettre de s'accommoder de production renouvelable variable. Il va permettre de servir de tampon, d'absorber les variations de cette énergie renouvelable. Mais ce n'est pas le seul intervenant, c'est un intervenant qui va être un compagnon de l'électricité. Finalement, c'est une alternative à l'électricité qui va nous permettre de stocker, de transformer, d'aller d'un secteur à un autre. Et il faut les voir comme finalement des compagnons qui vont se tenir la main dans cette transition énergétique.
J'aime bien cette image de l'hydrogène qui marche main dans la main avec l'électricité. C'est assez parlant, même si ça illustre aussi la complexité des scénarios à construire. Il faut modifier notre façon de produire de l'électricité, mais sans savoir de combien d'électricité on aura besoin, puisque demain, de nouveaux secteurs compteront sur le maillon électrique. Il faut penser des alternatives au kérosène pour les avions, mais sans savoir combien d'avions voleront encore demain, puisque l'on sait que l'on réfléchit aussi à remplacer toute une série de trajets faits aujourd'hui par avion, par le train par exemple. Il faut remplacer de l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert, pour des fabrications d'engrais notamment, mais avec une agriculture qui est aussi en train de changer de visage. Alors comment penser, décider, encourager, encadrer, quand tout bouge à la fois?
C'est là, je pense, l'illustration parfaite de la transition énergétique, de sa complexité en tout cas, c'est que c'est une mutation systémique. On ne peut pas changer une chose, c'est une constellation de choses qu'il faut changer et qu'on ne peut pas juste avancer dans son coin, il faut avancer tous ensemble. Et cette interdépendance fait que on a besoin d'une gouvernance aussi qui a une vision long terme et qui ne cède pas aux difficultés que peuvent amener les crises du court terme.
Voilà qui me rappelle un précédent épisode sur la gestion de crise permanente et qui me donne aussi l'idée d'un prochain numéro sur la gouvernance climatique. Quand on voit déjà la difficulté à mettre d'accord toutes les parties de la Maison Belgique, on mesure l'enjeu de construire ça à l'échelle internationale et dans une dimension de long terme. Mais restons-en là pour cet épisode. À la réalisation sonore, il y avait Bawandine, merci à lui. La semaine prochaine, c'est un tout autre tournant que l'on va envisager. Celui que beaucoup entrevoient dans l'attitude de Vladimir Poutine. Le risque d'une vraie confrontation Est-Ouest avec la menace nucléaire en toile de fond est-il un fantasme ou une réalité de plus en plus plausible? Tentative de réponse dans notre prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents de ce podcast, toujours disponible sur Ovio, en streaming ou en téléchargement. Et si vous souhaitez nous écrire, je vous rappelle l'adresse de l'émission, tournant@rtbf.be. On tâche toujours de vous répondre, même si ça met parfois un peu de temps, vu le nombre de courriels reçus. Merci, en tout cas, pour votre écoute fidèle.